VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h, Bujumbura. Bonjour à tous. Au moins 5 personnes ont été tuées lundi soir dans la commune de Gizirou, en province de Ruigi, à l'est du Burundi. Cette attaque a également fait 6 autres blessés, selon le gouverneur de la province, qui indique que 5 personnes ont déjà été arrêtées pour des raisons d'enquête et les autres auraient fui en direction de la Tanzanie voisine. Des coups de feu ont été par ailleurs entendus lundi soir dans le quartier de Moussaka, au sud de Bujumbura, et plusieurs personnes ont été arrêtées pour interrogatoire selon des sources policières. Les détails avec Christophe Nkuruziza à Bujumbura. Christophe est en ligne, nous l'aurons tout de suite. Ne partez pas. Christophe est en ligne, nous l'aurons finalement. Voilà, Christophe est en ligne.
Le gouverneur Hassan Abdallah de la province de Ruigi, à l'est du Burundi, a indiqué que 5 personnes ont été tuées quand des gens armés ont tiré lundi soir dans le tas au marché de Muninya, en commune de Gisuru. 5 autres personnes ont été arrêtées selon la même source, qui affirme que ces personnes ont été reconnues comme étant originaires de la même colline, mais ayant quitté le Burundi pour se réfugier en Tanzanie. Hassan Abdallah confirme que 6 personnes ont été blessées. Les sources de la population sont formelles. Ces bandits armés ont voulu s'attaquer à l'administrateur de Gisuru, Aloïse Nyezira, mais se sont mis à tirer sur les gens qui étaient au marché de Muninya. En novembre dernier, 2 personnes, dont un policier, avaient été tuées dans la même commune de Gisuru par un groupe armé venu de la Tanzanie, selon l'administration de Ruigi. Il est à noter que la Tanzanie abrite plus de 120 000 personnes ayant fui les violences depuis l'élection controversée du président Pierre Nkurunziza. Signalons aussi que des tirs ont été entendus lundi soir dans les quartiers de Musaga, au sud de Bujumbura. Selon la police, au moins 6 personnes ont été arrêtées, tandis que le quartier 1 de Ngaga était ce mardi matin bouclé par des policiers. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Congo, des dizaines de jeunes sont arrêtés dans la région du pôle. Selon les défenseurs des droits humains, ils sont à une 50aine d'opposants actuellement en détention en République du Congo. Une annonce qui contraste avec la mise au point de Brazzaville le week-end dernier contre la prise de position de Washington, qui a condamné les irrégularités lors de l'élection présidentielle du 20 mars au Congo. On écoute le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits humains, Trésor Nzila.
La situation des droits de l'homme en République du Congo est très inquiétante. Les libertés sont bafouées en toute impunité. On prive la jeunesse congolaise du droit à la liberté d'expression. On prive les leaders politiques de l'opposition de tous les droits et libertés politiques, alors que la République du Congo est signataire de plusieurs instruments internationaux. Les collaborateurs des leaders politiques qui sont aujourd'hui privés de liberté pour avoir exprimé leurs opinions par rapport au déroulement de l'élection présidentielle. Actuellement, au Congo, nous pouvons dénombrer une 50aine de cas de prisonniers politiques. Et c'est la privation de liberté de ces personnes ne se justifie pas. Le fait d'avoir exprimé les opinions politiques ne peut pas être considéré comme étant une infraction.
Trésor Nzila, le secrétaire exécutif de l'OCDH. Élection présidentielle au Tchad, l'Union européenne demande que le dépouillement et la compilation des votes se déroulent de façon transparente et vérifiable. La demande de l'UE intervient alors que l'opposition dénonce la fraude. Le chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, candidat rival du président sortant Idriss Déby, a accusé le régime de bourrage d'urnes et de vente de cartes d'électeurs. Le président Déby fait figure de grand favori parmi les 13 candidat en compétition. C'est son 5e mandat qu'il brigue dans un climat de contestation après 26 ans de pouvoir sans partage.
VOA Afrique en direct de Washington.
De plus en plus d'enfants sont impliqués dans les attaques suicides dans la région du lac Tchad, où le groupe islamiste nigérian Boko Haram, affaibli militairement, tente d'instaurer la terreur par tous les moyens, a rapporté aujourd'hui l'UNICEF. De 4 enfants utilisés dans les attaques kamikazes en 2014, on est passé à 44 l'année suivante, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, où s'est vu le groupe qui a rallié l'organisation de l'État islamique. Le rapport de l'UNICEF pointe la situation dramatique de milliers d'enfants victimes d'enlèvements, d'abus sexuels et de mariages forcés, devenus une arme de guerre aux mains de Boko Haram, utilisée comme bombe humaine ou pour transporter des explosifs. Au Niger, une dizaine de jours après la reconduction comme Premier ministre, M. Brigui Raffini a formé son équipe gouvernementale. La liste des ministres a été communiquée hier soir à la télévision nationale nigérienne. Ils sont 38, dont 7 femmes. Abdul Razak Idrissa est à Niamey. Il nous en dit plus.
Tous les caciques du parti présidentiel sont là, à l'exception de Kariyo Mahamadou, remplacé à la défense nationale par Hassoumi Massaoudou. Ce dernier cède l'intérieur à Mohamed Bazoum en tant que ministre d'État. Foumakoy Gado, le vice-président du parti, lui garde son portefeuille du pétrole. Madame Kané Aïchatou Boulama se voit, elle, attribuer le plan, cédant ainsi les affaires étrangères à Ibrahim Yacouba, ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et candidat malheureux du premier tour de la présidentielle. Comme lui, deux autres candidats recalés au premier tour et ayant soutenu le président Issoufou Mahamadou au second tour font partie de l'équipe de Brigui Raffini. Il s'agit de Kassoumama Mokhtar et de Lawan Magaji. Moro Amadou est maintenu à la justice sans toutefois la fonction de porte-parole du gouvernement. Sur les 38 membres, on dénombre 7 femmes et 3 ministres d'État, dont Albadé Abouba, le président du principal parti allié de la majorité. Il faut enfin noter qu'aucun membre de l'opposition politique ne figure parmi ces ministres, confirmant ainsi le rejet par l'opposition politique de la main tendue du chef de l'État au lendemain de sa réélection. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Pénurie de carburant au Nigeria. Pour tenter de régler le problème, le gouvernement a prévu une aide d'environ 200 millions de dollars pour les importations de carburant. Notre confrère Tunde Fatunde dénonce l'inertie du gouvernement nigérien.
Le gisement pétrolier est devenu une honte au Nigeria parce que, une fois de plus, la classe politique est incapable d'organiser et de gérer les ressources pétrolières du pays. Il faut libéraliser le secteur comme on a libéralisé le secteur de télécommunication. Il faut rendre le secteur plus compétitif. Il faut que autant d'importateurs soient autorisés d'amener le carburant au pays sans passer par la Banque centrale. On a eu cette expérience avec la télécommunication. Et pourquoi pas ne pas répliquer un bon exemple dans le secteur du pétrolier. Le gouvernement n'est pas proactif, n'est pas dynamique en la matière. Malheureusement, c'est le cartel président Buhari qui décide de maintenir cette intervention de l'État en matière de prix de carburant.
Tunde Fatunde, journaliste basé à Lagos, joint par John Lindon. Le ministre italien des Affaires étrangères Paolo Gentiloni est arrivé ce mardi à Tripoli. Le chef de la diplomatie italienne est le premier haut responsable européen à se rendre en Libye depuis l'arrivée à Tripoli le 30 mars du gouvernement d'union formé sous l'égide de l'ONU. L'Italie est en première ligne dans les efforts internationaux pour ramener la stabilité en Libye, en proie, vous le savez, au chaos et à l'influence grandissante de l'organisation de l'État islamique dans la région de Sirte, à 400 km à l'est de Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Deux militaires russes ont été tués dans le crash de leur hélicoptère Mi-28 près de la ville de Homs en Syrie. Le ministre russe de la Défense a précisé que l'engin n'avait pas été la cible de tir. Il s'agit des 6e et 7e militaires russes tués en mission depuis le début de l'intervention de l'armée russe en Syrie le 30 septembre. Le parquet fédéral belge a annoncé aujourd'hui l'inculpation de deux nouvelles personnes dans l'enquête sur les attentats du 22 mars à Bruxelles. Les deux hommes auraient un lien avec une adresse de la capitale belge qui a servi de cachette et de point de départ le 22 mars à Khalid El Bakraoui, le kamikaze qui s'est fait exploser à la station de métro de Malbec. Rupture avec une tradition vieille de 70 ans aux Nations Unies. Pour la première fois, les candidats au poste de secrétaire général vont battre campagne. En effet, ils s'adresseront à l'Assemblée générale dans l'espoir d'influencer le vote secret au Conseil de sécurité. 56 pays membres menés par la Colombie et diverses ONG militent pour le choix de la toute première secrétaire générale onusienne. 4 des 8 candidats annoncés sont des femmes, notamment la Bulgare Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO, et l'ancien ministre de la Nouvelle-Zélande, Hélène Clark, qui dirige actuellement le PNUD, elle était ancien premier ministre. Donc, le général américain John Dunford, chef d'état-major interarmé, prépare un message à ses troupes pour leur rappeler de ne pas se mêler de politique au moment où les propositions militaires font polémique au niveau de la campagne pour la Maison-Blanche. Ici même aux États-Unis, cette réflexion intervient après une série de déclarations choc par les prétendants républicains à la Maison-Blanche. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.